pour sa langue éventuelle, puisque c'est un sujet d'actualité du jour. Je ne sais pas exactement comment il a formulé l'interrogation, mais c'est très probablement la paix entre Israël et les Arabes est-elle possible d'après l'enseignement de la Torah ou quelque chose de cet homme. Enfin, vous comprenez l'idée. Ah, c'est déjà formulé. Oui, vous voulez me dire quel est le titre?
Conflit entre
Ishmaël
et
Yitzhak. Bon, le conflit entre Ishmaël et Yitzhak.
Dans la Genèse.
Bon, j'essaierai d'être optimiste et nous étudierons à ce sujet un verset avec Rachid. Deux versets avec Rachid. D'ailleurs, il me semble vous l'avoir un peu indiqué le premier jour sur l'expression Rebecca aime Yaakov et Yitzhak. Non, aime Yaakov et Esav. Bien, alors je disais donc qu'il nous reste deux séances, je crois qu'on peut commencer maintenant. Et parce qu'il nous reste deux versets, je serais obligé de parler aujourd'hui. Donc du verset 11, sur le thème de la prière de Jacob, qui n'est pas indiqué dans le verset lui-même, comme vous avez dû remarquer, mais réintégré par le Midrash. Et demain nous étudierons le verset 12. De la structure, du contenu du rêve, entre guillemets, à proprement parler, c'est-à-dire ce que représente cette échelle où les anges montent d'abord et redescendent ensuite. Nous essaierons d'avoir le temps de l'étudier en trois moments. D'abord, un ouvrage qui indique qu'il y a la préfiguration de la révélation au Sinaï. Un second ouvrage qui dit qu'il y a la préfiguration du culte du temple lui-même. Et un troisième midrash, peut-être le plus essentiel pour nous, du point de vue de l'historiographie, qu'il y a là la préfiguration des différentes grandes civilisations qui se succèdent dans l'histoire du monde, et Jacob perçoit le sens de l'histoire de sa destinée en relation avec ces grandes civilisations qui se succèdent dans l'histoire. Chaque civilisation représentée ici par son génie propre, qui est cet ange qui monte d'abord de la terre, qui arrive jusqu'au faîte de l'échelle, tout près du ciel, mais qui ensuite redescend. Et puis Jacob assiste surtout à la dernière scène de cette vision, le dernier ange, le dernier génie culturel des civilisations universelles qui monte et qui ne descend pas encore. Et nous sommes au moment de l'histoire, à ce moment précis, de l'inquiétude de Jacob de voir effectivement toutes les civilisations se succéder et l'identité d'Israël traversant cette succession historique, mais la dernière étape étant en point d'interrogation. Alors nous garderons le point d'interrogation jusqu'à demain matin, cette inquiétude de Jacob, craignant que le dernier ange ne redescende pas. Bon, ce sont les trois points que nous essaierons d'étudier demain. Alors, en introduction immédiate, et pour attendre le retardataire, nous allons quand même relire les versets. Et un peu plus loin d'ailleurs que le texte que vous avez sous les yeux dans les éditions du Torah Shlema. Alors aidez-vous du Chumash général, du texte général du chapitre. Alors le verset 10 du chapitre 28, Vayetse Yaakov et Beersheba, et Jacob est sorti de Beersheba. Vayelech Harana, et il partit en direction de Haran. Vayefgar Bamakom, littéralement, et c'est ce verset qui nous occupera aujourd'hui. Vayefgar Bamakom, il se heurta à l'endroit. C'est d'abord le sens général de la lecture. Jacob est en voyage, son intention est d'aller de Beersheba juste à Haran, comme nous l'avons vu déjà avant-hier. Et donc, son intention est de retourner au point d'où a été le point de départ de la marche de la famille d'Abraham lorsqu'elle sort de la civilisation de Ur-Kasdim pour rejoindre Eretz Israël, qui s'appelle à l'époque Eretz Knaan. Vous vous rappelez que la famille d'Abraham, sous la direction d'abord de Terach, le père, Taré en français, mais enfin je dirais Terach, pas si Taré que ça quand même, en hébreu, et a pris l'initiative de décrocher de la civilisation de Ur-Kasdim, de la civilisation mésopotamienne, à la suite de tout ce dont les Midrashim enseignent, mettent en évidence le fait que cette grande civilisation mésopotamienne, l'antique Babel, du temps d'Abraham, est arrivée à un stade qui sera très analogue à ce que la Torah décrira de la civilisation égyptienne plus tard au temps de Moïse, c'est-à-dire la société totalitaire, où il y a connaissance du code de la moralité, très en passant, on peut citer ou signaler l'existence de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom du code d'Amourabi. On connaît le code de la moralité, mais il y a distinction entre la moralité et la légalité. La moralité est connue sous forme d'éthique, mais elle n'est pas admise comme étant, elle, la constitution de l'État. Il y a différence entre... Ce n'est pas elle qui est légale, si vous voulez. Il y a différence entre moralité et légalité. Le résultat, c'est la situation concentrationnaire. Et le Midrash montre effectivement que, en fin de compte, la famille d'Abraham est persécutée à la manière de la persécution de l'exil postérieur, et que Abraham est envoyé dans la fournaise, c'est-à-dire dans au four crématoire, pour prendre des comparaisons contemporaines. Et que par miracle, il est rescapé de cette fournaise, Ur Kaldim. En fin de compte, il arrive à convertir sa propre lignée, convertir entre guillemets à son intuition du monothéisme. Nous verrons de façon plus détaillée tout à l'heure qu'est-ce qu'elle implique du point de vue de ce problème, que ce soit la moralité elle-même qui doit être considérée comme étant la légalité. Et toute cette marche messianique qui commence à partir d'Abraham a pour étape principale Haran. Vous vous rappelez, Ur Kaldim, c'est la capitale de la civilisation de Babel de l'époque, ce qui reste de l'ancienne civilisation universelle éclatée à la tour de Babel. En son centre, c'est Ur Kaldim. Et Haran, c'est l'étape avant la frontière de Eretz Canaan. Donc Jacob, d'une certaine manière, prend bilan d'un échec à l'étape propre de l'histoire de sa propre famille. Abraham a donné en fin de compte Isaac, et puis Isaac a donné Jacob et Ésaü. Et entre Jacob et Ésaü, il y a rupture de l'équation de fraternité, haine d'Ésaü contre Jacob. D'autre part, et parallèlement, je récapitule ce que nous avons vu assez rapidement, mais c'est quand même nécessaire, il faut continuer l'effort des engendrements pour arriver à l'identité Israël. C'est au niveau individuellement de Jacob lui-même que cette mutation d'identité se produira, à un certain stade, après sa propre histoire, sa propre geste, si j'ose dire, sa propre mutation d'identité, il sera nommé Israël et fondera la société d'Israël. Nous avons déjà appris qu'il y a là un test, un signe qu'il faut passer avec succès, être capable de la fraternité. Or, Jacob fait un bilan d'échec. À Beersheba, dans la maison de son père Isaac, les deux frères ne sont pas frères, bien que jumeaux. Ils ne sont pas frères du point de vue de la moralité. Si vous voulez, ils sont légalement frères, mais ils ne sont pas frères moralement. Il y a haine entre Ésaü et Jacob. Alors il s'enfuit. Il s'enfuit en prenant acte d'un échec. Par conséquent, il a tendance à recommencer tout au point de départ. Je crois que nous pouvons lire ainsi sa sortie de Beersheba pour revenir à Haran. Haran étant le point de départ de l'histoire d'Abraham. Et alors, son intention, vous rappelez ce que disait Rachid avant-hier, enfin, il y a longtemps qu'il l'a dit, mais on l'a entendu avant-hier, c'est que disait Rachid, Yatsa la lechet le Haran. Il s'en va pour directement aller à Haran, et donc, en fin de compte, quoi, il va là-bas prendre femme pour continuer les engendrements, mais recommencer. Semble-t-il à partir de zéro, comme s'il n'y avait pas d'acquis de ce que depuis Abraham, Isaac et jusqu'à lui, avait été fait recommencer de Haran, tout cet geste de l'engendrement de l'identité fraternelle, c'est-à-dire de l'identité d'Israël, où l'équation de fraternité aura pu être résolue. Nous savons qu'il va arriver à la réussite. Et il engendrera Joseph et ses frères. Et Joseph et ses frères reprennent le problème de la relation à autrui dans la perspective plus que d'une espérance, d'une certitude de solution. Et je pense que c'est suffisant pour déjà cadrer ce que nous dit maintenant le début du verset 11, Vayevgar Bamakom, il se heurte à l'endroit. Quel endroit? C'est l'endroit où Abraham avait prié et où Isaac avait prié. Il y a là une indication que le Midrash va reprendre plus en détail tout à l'heure. Dieu ne laisse pas Jacob retourner au point de départ comme si rien n'avait été acquis. Il l'arrête, et comment dit-on en français? Écoute. Pas obstacle, écoute. C'est exactement ça. Il le stoppe à Jérusalem en disant Il n'est pas normal que ce juste sadique Jacob croit qu'il doit tout reprendre à zéro, comme s'il n'y avait pas d'acquis. Je l'arrête à l'état des réussites de ses pères, c'est-à-dire Abraham et Isaac. Nous retrouvons la formule tout à l'heure de façon précise dans vos références. Et Dieu ne laisse pas Jacob dans cette illusion de croire que puisqu'il y a échec avec Ésaü, tout se passe comme si il faudrait recommencer à zéro. Est-ce que le principe est bien clair? C'est pourquoi la Torah ici emploie un terme violent, un terme fort, païka, pas mal comme. Il se heurte à l'endroit. Il y a un midrash que vous avez dans vos références, et si vous voulez, je peux vous citer toute la référence, sinon vous travaillerez un exercice pour le retrouver. C'est un midrash extraordinaire qui dit que tout se passe comme s'il faut comprendre de la manière suivante. Le monde entier s'est dressé devant lui comme un mur, et pour l'arrêter à Jérusalem pendant son voyage dans l'antérieur. Et le terme qui est employé, c'est Kotel. C'est-à-dire le monde entier s'est fait Kotel pour lui. Et tout se passe comme si, quel que soit le voyage, eh bien, on ne peut pas ne pas s'arrêter au Kotel. Je referme la porte. Et c'est d'une certaine manière cette notion qui apparaît là, que vous retrouverez aussi à propos d'Isaac. Lorsque Isaac, faisant son propre diagnostic sur ce qui arrive d'Ésaü, Ésaü, le fils aîné naturel de la famille d'Isaac, qui échoue, parce que les engendrements ne peuvent pas passer à travers lui, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, alors il y a trois, quatre versets très, très furtifs dans l'histoire d'Isaac. Isaac a tendance à descendre en Égypte. C'est-à-dire à recommencer tout lui aussi, à la manière d'Abraham, à reprendre tout du commencement, à descendre dans l'exil, parce qu'il y a échec au niveau de sa propre famille. Ésaü n'aime pas Jacob. Et Dieu l'arrête à Beersheba, se révèle à lui, et lui dit, « Altered Mitzrayim, toi ne descends pas en Égypte. » Nous verrons dans la typologie des patriarches que chacun d'entre eux, Abraham, Isaac, Jacob, à une définition bien précise du point de vue de la formule même que le vocabulaire traditionnel emploie, dans la typologie que nous sommes en train d'explorer. Abraham est appelé Techila la Guérim. Techila la Guérim, ça signifie quoi en français? Techila la Guérim. Commencement, Techila, des Guérim. Non, des convertis. Oui. Oh, il y a tout un mystère de la langue. Si vous voulez, nous pouvons ouvrir cette parenthèse-là à propos d'Abraham, mais rappelez-moi que je dois parler aussi d'Isaac et de Jacob. Et pourquoi l'hébreu, pour dire le converti, c'est-à-dire celui qui vient adopter l'identité d'Israël, emploie un terme qui signifie étymologiquement juste le contraire, l'étranger. Comment, quel est le verbe pour dire se convertir à, dans ce sens-là, l'érit gaïer? Or, l'érit gaïer, ça signifie devenir étranger, puisque guerre, c'est étranger. Il me semble que nous avons étudié une fois, peut-être à Jérusalem, enfin ceux qui étaient à Jérusalem s'en rappellent peut-être. Et nous avons étudié une fois cette apparente bizarrerie de la langue. Comment? Ça veut dire, j'adopte quelqu'un dans ma famille, et comment je dis le fait que je l'adopte, qu'il devient étranger? C'est bizarre. Oui,
parce qu'il quitte.
On peut garder le sens, mais ça c'est au niveau drash, dans le pshat même du terme. Et ça ne suffit pas encore. Comment? C'est bien, alors on va aller plus loin. C'est bien, c'est le sens, mais un peu trop littéraire. Mais c'est ça. Et on va voir en linguistique même. Hein? Non, devenir Israël, ça veut dire prendre la condition de l'étranger. Vous avez vu jusqu'où il faut aller. Ouais. Ça veut dire, je vous dirai de la manière chassidique tout à l'heure, mais d'abord au niveau du vocabulaire, les hitgayer, ça veut dire devenir guerre. Mais c'est ça être Israël. Non, vous n'en voulez guère. Mais j'explique. Regardez ce que Abraham dit de lui. Abraham dit de lui-même en arrivant à Hébron pour l'achat de la caverne de Marpella pour l'enterrement de Sarah. Et comment Abraham argumente en disant guère vetoshar panochi imachem.
Je réside, parlez-vous, je ne suis qu'un résident.
Oui, mais il y a deux mots. Il y a guère vetoshar anochi imachem. Alors je traduis d'abord cela, si vous voulez le voir au tableau. Guerre, ça veut dire je suis étranger, je viens d'ailleurs. Il vient d'Ur-Kasdim et il arrive dans le pays de Canaan. Guerre, la gour, ça veut dire séjourner comme un étranger séjourne provisoirement. La dour, ça veut dire habiter. Dirat Kevar, Dirat. Et la Dour, ça veut dire habiter, s'installer. La Gour, ça veut dire séjourner, mais comme un étranger séjourne ailleurs que chez lui. Ger, c'est le premier terme par lequel Abraham se définit lui-même en Canaan en arrivant de l'Occasie. Et il ajoute Vetoshav. Et Toshav, ça veut dire résident. Résident comme celui qui habite chez lui, la chevette, Toshav. Vous voyez, les deux termes sont contradictoires. Ger, Vetoshav, Anochi, Imachem. Il y a une ambivalence de l'identité d'Abraham chez lui, en Eretzlan, dans le pays de sa promesse, dans le pays qui lui est promis. Il y a une contradiction de deux manières d'être chez soi, à la fois étranger et chez soi. Ger, Vetoshav, Anochi, Imachem. Or, c'est cette identité qu'Abraham prendra sur lui, et en cela il va fonder l'identité d'Israël. Se considérer comme étranger chez soi. Regardez bien que l'histoire nous impose cette condition. Tant dans l'exil, nous sommes étrangers chez les autres, mais nous nous considérons comme chez nous à la manière d'un étranger, et les autres aussi. Je pense que c'est clair. Et puis, alors, on pourrait croire, mais au paradoxe, on pourrait croire que revenu dans le pays d'Israël, tout le monde considérerait que nous sommes chez nous. Alors, paradoxe, nous sommes le seul pays où la loi s'inverse et on considère que c'est précisément parce que nous sommes chez nous que c'est pas chez nous que nous sommes. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe. On dira de personne qu'il n'est pas chez lui. Les Polonais sont chez eux en Pologne, les Corses sont chez eux en Corse, et les Auvergnois et les Auvergnats en Auvergne. Mais il n'y a qu'Israël qui n'est pas chez lui en Eretz Israël.
Il n'est pas Gertzé, d'accord.
Il n'est pas considéré comme étant chez lui. Au point que par toute une stratégie verbale, on s'ingénie à parler de ce pays comme si c'était un autre pays qui appartiendrait à un autre peuple, et de telle sorte d'inverser toutes les données de l'histoire réelle et de l'histoire concrète. Alors, plus tard, les historiens noteront, du point de vue de l'objectivité du rappel historique, eh bien, en ce temps-là, le peuple d'Israël, revenu de l'exil, se croyait chez lui, mais en réalité, on lui a contesté cette relation d'appartenance à sa propre identité. Mais ça pose un problème pour le philosophe. Pourquoi seulement le juif est l'objet d'un tel paradoxe? Et le paradoxe, si vous voulez, dans l'exil, c'est qu'on puisse nous considérer chez nous, là nous ne sommes pas chez nous. Par exemple ici, nous sommes chez les Français. Et puis cependant, on nous considère comme étant chez nous. Mais avec la clause inversée. Et cependant, étranger. C'est très compliqué à dire, il n'y a pas de catégorie juridique qui dirait la vérité de cette identité existentielle. Mais elle est toujours vétochable et dans les deux sens. Alors c'est là que nous avons une lecture un peu plus profonde, je voulais juste une minute, j'ai oublié. Dans un verset, Dieu dit à Israël, au peuple d'Israël, « Gerim vetoshavim atem imadi. » Vous êtes chez moi, avec moi, dans mon monde, c'est Dieu qui parle à l'homme, vous êtes avec moi, gerim vetoshavim, étranger séjournant. À la fois chez vous et pas chez vous. Alors les chassidim ont expliqué de la manière suivante, ça vient du Baal Shem Tov lui-même d'ailleurs. Si vous vous considérez comme chez vous dans le monde, alors moi je suis étranger. Et si vous vous considérez comme étranger dans le monde, alors je suis chez moi dans le monde. Est-ce que c'est clair? Alors, être Israël, ça veut dire accepter de se considérer comme étranger dans le monde des hommes pour que Dieu soit chez lui. Alors ça va très loin. Et c'est cela l'identité qu'Abraham a fondée en disant de lui-même « Gerbet Toshav ». Mais où est l'ambivalence? C'est-à-dire, si nous nous considérons comme des Toshavim, des hommes du monde, si j'ose dire, que le monde c'est à nous, les hommes, alors Dieu n'est pas chez lui, il prend un congé, il est en congé, la Shrina s'en va. La présence de Dieu se cache. Si nous nous considérons comme étrangers, alors la présence de Dieu se dévoile. Et c'est cette identité-là qui s'appelle Israël. Alors nous avons donc une première équation, Israël égale guerre, alors guerre égale Israël. Est-ce que c'est bien clair? C'est pourquoi lorsqu'un non-juif devient juif, on l'appelle étranger, mais on le félicite. Ça veut dire que tu es devenu enfin un homme normal, étranger dans le monde. Ça veut dire que tu es devenu guerre. Alors c'est ça être Israël. Et c'est pourquoi donc, pour dire, regardez le paradoxe apparent de linguistique, mais ce qu'il y a derrière est beaucoup plus important. Pour dire que quelqu'un s'est converti, alors on dit, il s'est enfin authentifié. Il sait qu'il est étranger au monde, d'une certaine manière. Mais l'ambivalence restera. Vous voyez que cette ambivalence est aussi un piège, d'une certaine manière. parce que nous ne pouvons qu'avoir la tentation de nous considérer comme chez nous dans le monde. Je parle à un niveau existentiel simple, hein. Mais pourtant, n'importe quel homme a inévitablement ce sentiment d'étrangéité, quelque chose d'étrange dans la relation entre l'homme et l'homme. Nous sommes chez nous, et cependant, tout se passe comme si nous sommes d'ailleurs. Alors, être juif, être Israël, c'est vivre cela comme destin, comme condition historique. C'est cela qu'Abraham commence. C'est pourquoi, donc, la tradition dira d'Abraham qu'il est Techila la Guérim. Il est le premier des convertis. Converti à quoi? Il n'y avait pas Israël pour qu'Abraham entre en Israël. C'est lui, je parle du peuple, de l'identité humaine. C'est lui qui fonde cette identité Israël en lui-même, en devenant de Abraham, Abraham. Alors, il se convertit à cette authenticité humaine, selon la Bible, qui consiste à savoir que dans le monde, purement et simplement, le Olam, tel qu'il est, les cieux et la terre, le système solaire, si vous voulez, la planète sur laquelle nous vivons, nous sommes à la fois chez nous et pas chez nous. Et l'autre, au paroxysme, cette identité est vécue par une identité humaine particulière qu'a fondée Abraham. Et donc, quelqu'un des nations, quelconque, venu en Israël, prend le nom de guerre, parce que le vrai nom d'Israël, c'est d'être guerre. On y croyait guerre, hein, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est la guerre. Trier à la guérir. Vous aviez une question, et après, je parle d'Israël.
Si vous êtes d'accord, je suis consenté, je suis effectivement guerre, mais sinon, je suis Toshav. Alors, il y a là évidemment une ambiguïté. Est-ce que ça veut dire, je sais que je suis guerre, étranger, mais si vous ne m'acceptez pas en tant qu'Israël, je réclame que je suis Toshav. Est-ce que ça veut dire, légalement, je suis quand même chez moi, ou est-ce que ça veut dire, à ce moment-là, je me camoufle dans le manteau de l'assimilation? Question que me semble importante.
La deuxième partie de la question repose une autre question, mais je voudrais me borner à répondre à la première. À la fin, ça a ouvert un autre chapitre. C'est très joli, cette manière de poser la question. Ça veut dire, je sais que je suis Toshav. Comme tous les hommes nés dans le monde, je suis chez moi dans le monde. Mais je réclame le statut du guer. Et maintenant, si vous me considérez comme guer, alors c'est très bien, mais sinon je serai aussi Toshav. C'est à peu près la manière dont tu as posé la question. Mais il faut voir juste la suite. Dans les deux cas, dit Abraham, je dois posséder la Hébron, la caverne de Marpella. J'explique très rapidement comment cette question arrive. C'est que la coutume en ce temps était que chaque famille, chaque maison familiale possédait un caveau pour enterrer ses morts. Et Abraham, qui était connu comme un prince, mais vient d'un autre pays. Il n'a pas de caveau familial dans le pays qui était habité à l'époque par les Hittites. Les Bnechet, les ici est écrit avec Tav, ne confondez pas. Chet avec Tet, ça veut dire la faute, les fils de la faute, la chute. Hein. C'est écrit avec Tav. Quoique le Midrash joue sur cette analogie de termes, par exemple, lorsque nous avons cité un verset à propos des femmes qu'a épousé Esaü, Mipene Benot Chet, que Rebecca était amère de voir son fils Esaü épouser des filles de Chet, des Chittites, des Chittéennes, je ne sais pas comment on dirait. Et alors, le Midrash dit, mais pénètre notre hête à cause des filles du péché, littéralement, c'est-à-dire des filles qui viennent de la chute du premier homme. Et c'est là qu'Abraham vient commencer la rédemption, prendre en relais, si vous voulez, l'ascension de l'histoire. Or, Abraham, en principe, n'a pas de caveau familial. En vrai, il veut acheter un caveau familial pour pouvoir enterrer Sarah. Mais il y a, parmi tous les caveaux de ce pays, il y en a un qui est double. Marpella, ça veut dire double. Il y a deux choses. Il y a d'abord le caveau familial, et il y a aussi autour du caveau familial le champ où on enterrait les étrangers. C'est-à-dire, vous voyez, ce n'est pas n'importe quel caveau qu'Abraham veut acheter. Alors il dit, si vous me considérez comme guerre, c'est très bien. Alors vous allez enterrer ma famille dans la caverne à Marpella, parce que c'est ça, le cimetière des étrangers. Maintenant, si vous ne me considérez pas comme guerre, considérez comme moi, comme Toshav, vendez-le moi. Et de telle sorte que, mais dans tous les cas, c'est le même endroit. Dans lequel il s'insère. Vous savez, je vous dirais très, très en passant, il y a un midrash à propos de l'achat par Jacob du champ qu'il y avait à côté de Shrem, qu'on appelle aujourd'hui Kadoum, vous savez, toutes les histoires qu'il y a dans les journaux. C'est ce champ-là. Enfin, c'est pas exactement celui-là, mais ça pourrait être. En tout cas, il n'est pas sur la Lune. Il est là-bas, à côté de ce champ. Et à ce propos, la démocratie, il y a en tout cas trois endroits que les nations du monde ne peuvent pas contester à Israël, parce que nous avons des titres de propriété depuis le temps des patriarches, et d'ailleurs, à la dernière session de l'ONU, l'ambassadeur Herzog a cité la Bible comme titre de propriété. Le monde entier était étonné qu'on puisse citer comme titre de propriété un texte aussi ancien, mais enfin, indépendamment, si vous voulez, de l'humour noir comme le pétrole, d'ailleurs, qui est dans ce problème. Et la Gemara dit, à ce propos, il y a trois endroits, qu'on ne peut pas nous contester. Tout le monde sait que Israël, c'est à Israël. Oui, mais tout le monde sait qu'il ne faut pas le lui reconnaître. Pour obliger Israël à être Israël, peut-être. Oui, jusque-là, mais c'est assez sensationnel de vivre une histoire pareille. Hein? Pendant 2000 ans, on nous a dit, tu sais, toi, tu n'es pas toi, parce que toi, c'est moi. Israël, c'est pas le peuple juif, c'est l'Église. Et pendant 2000 ans, patiemment, nous avons entendu jusqu'à Vatican II, où là l'Église a dit non, c'est les Juifs qui sont, mais ils n'ajoutent pas Israël. C'est les Juifs qui sont le peuple de la Bible. C'est très frappant, les derniers livres qui paraissent dans la relation christiano-juive, si vous voulez, pas judéo-chrétienne, mais des chrétiens vis-à-vis des Juifs, je suis frappé que les livres les plus amicaux évitent de dire du peuple juif qu'il s'appelle Israël. Ils ne disent plus que c'est Rome qui est Israël. Mais on évite de dire que ce sont les Juifs qui sont Israël. On parle du peuple de la Bible, avec une ambiguïté un petit peu encore ambiguë. Le peuple de la Bible, c'est-à-dire quoi? Il y a aussi, vous savez, des associations d'amis de la Bible qui se réunissent pour prier même sur des textes bibliques. On appelle ça l'Église chrétienne. Mais ce sont des associations d'amis de la Bible. Ils aiment la Bible et ils prient à travers la Bible. Alors, est-ce qu'il veut dire encore que c'est ça le peuple de la Bible dont il parle? Pourquoi ne pas dire Israël? Enfin, c'est encore la suite de l'ambiguïté. Mais ceci dit, la Gemara dit trois endroits, parce que c'est écrit en clair, dans le livre que respectent les nations du monde. C'est pas dit, les nations du monde ne contesteront pas ces trois endroits. Ils les contestent, d'ailleurs. C'est d'abord Shrem, que Jacob a acheté pour Méa Peshitta, vous rappelez le. On nous a donné même la somme. C'est Hebron que Abraham a acheté pour Abraham et autre shekel. Envers la sorte. Ça veut dire, le texte a précisé, c'était de l'argent franc. C'était pas des pétrodollars. C'était vraiment de l'argent de commerçant. Et puis, le troisième, c'est Moria. Et le mont Moria. Vous avez remarqué d'ailleurs que ce sont les trois lieux d'implantation depuis 67. D'abord la vieille ville, ensuite Hebron, et ensuite Shrem. C'est-à-dire comme s'il y avait une programmation mystérieuse de ces événements. Je dois rajouter qu'il y a un quatrième endroit qui appartenait, où le texte de la Bible indique que ça appartient à un ancêtre de Juif, Boaz, l'ancêtre de David, et ça c'est Bethléchem. Et quand vous commencerez à entendre parler des implantations sauvages à Bethléchem, vous verrez que le programme est donc un peu plus avancé. Bien, alors ça c'est en tout cas pour la définition de Abraham. C'est Terila la guérine. Isaac s'appelle Ola Temima. Ola Temima, ça veut dire toute son identité est considérée comme pure. Ola Temima, je ne veux pas traduire holocauste parce que ça ressemble trop, mais on pourrait traduire comme cela. Et puis Jacob est appelé Mutato Shlema. Toute sa descendance est parfaite, est pure. Du point de vue de l'identité israélienne, d'une certaine manière, tout juif est un juif, tout Israël est Israël. Et lorsque Isaac, craignant d'avoir à prendre acte d'un échec, craint aussi que cet échec est définitif, puisque Ésaü a pris des filles de Canaan, donc les engendrements sont stoppés, pour les raisons que nous avons vues précédemment, alors il a tendance à descendre en Égypte, vous vous rappelez, il y a eu une famine dans le pays, et Isaac va vers l'Égypte, et là, à Beersheba, Dieu se révèle à lui en lui disant, toi, tu ne quittes pas, Eretz Israël. Avec Isaac a trois caractéristiques parmi les patriarches, que je vous rappelle brièvement. Il est le seul qui n'ait pas changé de nom. Abraham est devenu Abraham, Yaakov deviendra Yitzhak, Yaakov deviendra Israël, mais Yitzhak reste Yitzhak, Yitzhak ne change pas. Deuxièmement, il n'a jamais eu qu'une seule femme. Alors qu'Abraham a eu plusieurs femmes, Jacob a eu plusieurs femmes, Isaac n'a que Rebecca. Et troisièmement, Isaac n'a jamais quitté Eretz Israël, même pas en Shliachut, comme vous voyez, et en mission. Et probablement que ces trois choses, ces trois manières de dire la même chose. Avoir un seul nom, une seule femme et un seul pays. Je ne fais pas de commentaires, mais vous avez compris. Alors, en tout cas, nous avons là une relation au fait que les Midrashim que vous avez dans vos références indiquent pourquoi, bien qu'on s'attendait, il me semble que j'ai entendu une question à ce sujet, peut-être de toi d'ailleurs, bien qu'on s'attendait à ce que la scène soit située à Hebron, en réalité, on part de Beersheba. Et le Midrash intègre le raisonnement suivant, que Jacob se dit, je dois quitter Eretz Israël. Il faut donc que je demande la permission, vous vous rappelez de cela? Or, de même que Isaac avait demandé la permission à Beersheba, et Dieu l'a refusé à ce moment-là, alors je vais donc aller à Beersheba, qui s'appelle littéralement Beersheba, le puits des sept, mais que le Midrash appelle Beershevoa, le puits du serment. Et là où est scellée l'alliance, là-bas, de demander la permission de quitter Eretz Israël, avec quelle intention? Très analogue, parallèle, recommencer. Il faut recommencer, puisqu'il y a échec. Et alors là, le Midrash continue en disant qu'il est donc allé à Beersheba pour obtenir cette permission. Il obtient cette permission et il va à Haran pour recommencer, mais il se heurte à l'endroit, l'endroit par excellence dont il est parlé précédemment. Vous verrez que Rachid nous donne lui-même la référence. Et là, quel était cet endroit? C'est lorsque Abraham est invité à la grande aventure de Hakedat Yitzhak, du sacrifice d'Isaac. Alors le texte dit qu'Abraham a vu l'endroit de loin. Vayar est un makom merachok. Abraham a vu l'endroit de loin. Et c'est en fin de compte, au moment de Isaac, qu'on nous dira que c'est l'endroit où le ciel est relié à la terre, plus exactement d'ailleurs comme nous voyons dans la vision du rêve, où la terre est reliée au ciel, puisque les anges montent et descendent, vous vous rappelez, et c'est donc l'endroit du Beth Amidrash. Il faut bien retenir qu'il y a cette parallèle entre les trois patriarches et le fait que dans le verset, trois fois, ce même mot est employé. Alors, Vayevgar Barakom, maintenant je vais lire beaucoup plus rapidement, parce que nous allons revenir à ce terme de Vayevgar, pour savoir pourquoi le Midrash explique, la Gemara aussi, qu'il faut comprendre qu'il y a eu un événement de prière. Et qu'est-ce que c'est que cette prière? Que Vayevgar, ça ne veut pas dire simplement qu'il se heurte à l'endroit, il est stoppé, comme nous avons vu, un mur se dresse, un mur, mamache, Kotel, je ne sais plus qui a dit cette expression peut-être missionnaire, après la guerre des six jours, que maintenant, peut-être Georges Lévy, je ne me souviens plus, enfin, c'est pas moi, que Israël a été mis au pied du mur. Alors ça a dû être cité par quelqu'un d'autre.
Au pied du mur, mais pas bloqué.
Oui, non, mais il a été bloqué là-bas afin de l'obliger à prier. Et quand il aura suffisamment su ce qu'il faut prier, la suite viendra, je suppose. Enfin, on peut aussi expliquer autrement. Qu'il y a donc ici une rencontre avec Dieu et que ce terme est employé dans certains versets que nous citerons, si on arrive à ce détail, pour dire prière. Par exemple, en particulier dans Jérémie, et lorsque Dieu dit à Jérémie, ne me prie pas, il dit Altif Garbi, ne t'agrippe pas à moi. Et donc ce sens veut dire, ce mot est employé aussi dans le sens de prière. On apprendra là qu'il y a aussi une correspondance entre les trois patriarches et les trois prières de la journée. La prière du matin a été instituée par Abraham, la prière de l'après-midi a été instituée par Isaac, et la prière du soir, c'est le soir, a été instituée par Jacob. Nous verrons dans la Gemara immédiatement ce texte tout à l'heure. Et il y a là trois identités dans les étapes d'engendrement de l'identité d'Israël. Et très souvent, du point de vue de cette exégèse, Abraham nous apparaît comme le patriarche du matin, Isaac le patriarche de l'après-midi, et Jacob le patriarche dans la nuit. Et il y a là une typologie aussi très précise à conduire. Mais en tout cas, nous retiendrons que le thème fondamental, principal, sera la prière instituée par l'air. On va y aller une chambre, il va à Chémèche, il se passa la nuit là-bas parce que le soleil était couché. Vaïkar Mermerma, comme il prit des pierres de l'endroit, Vaillassem est rajoutable, il en place là, il est placé là comme ouvrier, Vaishka Bama Komaou, et il dormit dans cet endroit-là. Vaillachalom, il rêva, Vehine et voici, sous l'arbre Moutsab Arsa, une échelle dressée en direction de la terre, Berochom Agar Shamaïma, et sa tête atteignant en direction du ciel, Vehine et voici, Malaché Elokim, les anges de Dieu, Olim et Odimbo, montent et descendent sur cette échelle. Je lis encore quelques versets. Vehine, Hachem, Nitzav, Alav. Et voici que Hachem, Dieu lui-même, Nitzav, se tient Alav, au-dessus de lui. C'est un masculin, Alav. Donc, en hébreu, reste cette ambiguïté que je vous ai signalée. Au-dessus de qui? Ou de l'échelle, ou de Jacob. Donc, le Midrash va choisir dans la lecture qu'il ne s'agit pas du tout que, au-dessus de l'échelle, mais au-dessus de Jacob, pour le protéger, nous dit la Midrash. Vayomar, il dit, Ani Hachem, c'est moi, Hachem, celui qui est Elohe Abraham Avicha, Dieu d'Abraham ton père, Veloke Yitzhak et Dieu d'Isaac. Aret Hachem Atashoche Valea, cette terre sur laquelle tu dors, Lecha et Enena, Uzaracha, c'est à toi que je la donnerai, et à ta postérité. On est frappé de cela. Ça va m'aider à revenir à l'étude du mot Makom, du verset. On est frappé de cela. C'est pas ici une vision gigantesque. Enfin, on a une scène considérable d'envergure, dont le Midrash va non seulement s'ingénier, mais dévoiler le contenu implicite du point de vue de la signification de l'histoire de ce peuple qui émerge de cette péripétie humaine, Jacob et Ésaü, le conflit Jacob et Ésaü, l'avenir de toute l'histoire de la création est suspendue en fin de compte. Est-ce que Jacob va réussir à devenir Israël? Et puis, comment tout ceci se dégage? Qu'est-ce que ce Dieu a à dire à cet homme? Ben, sache que ce pays t'appartient. Il y a là une espèce de mystère. Et, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un contraste. Ça ne fait pas balance. Hein? Le maître de l'univers, selon la cohérence du récit, celui qui a créé le monde, en vu qu'un jour, l'homme réussisse une histoire, un mérite colossal à obtenir pour que le monde devienne un vrai monde, digne de Dieu, compatible à son Créateur, on nous fait suivre un récit très très précis pour nous montrer d'où émerge, par mutation d'identité, une identité humaine qui va mener cette histoire à son objectif messianique. Et lorsque cela arrive, que Jacob est Jacob, et qu'il peut commencer cette difficile histoire qui fera de lui Israël, qu'est-ce que ce Dieu Créateur finit par lui dire, enfin commence par lui dire, c'est une espèce de contrat géographique. C'est-à-dire, sache que cette terre t'appartient. C'est assez extraordinaire. Vous avez compris comment la vie se passe. Je veux dire, nous sommes, comme d'habitude, tellement familiers à la lecture du texte qu'on n'arrive plus à s'étonner. Qu'est-ce que Dieu fait ici? Non, je me suis interprété un peu comme ça de façon limite, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire de cette manière. C'est qu'est-ce que Dieu fait ici? Eh bien, il demande à Jacob un engagement politique. Sache que tu vas aller en exil, tu vas aller en voyage, et de ce voyage tu reviendras, mais sache que ce pays t'appartient. Pourquoi il est si important de savoir que c'est ce pays-là qui est le pays d'Israël, où donc en son centre à Jérusalem et au centre de Jérusalem, le temple sera finalement construit pour être vraiment le lien et la porte entre le ciel et la terre, il sera dit tout à l'heure, Enze Kim Betra Elohim Veze Shahar HaShamayim, parce que Jacob va se réveiller de son rêve, alors il va dire cet endroit-là n'est pas autre chose que la maison de Dieu, Veze Shahar HaShamayim, et c'est la porte du ciel, Shahar HaShamayim. Il va se réveiller, il va dire ainsi, Dieu était là, moi je ne savais pas. Et donc c'est là que Dieu habite, c'est là que Dieu, c'est par là que Dieu communique avec son monde. La Gemara plus tard appellera Jérusalem Taboura, le nombril du monde. Il n'y a pas ici simplement, si vous voulez, une espèce de israélo-centrisme dont pourrait être accusé le peuple juif ou l'israélien comme tel, de voir le monde avec comme centre le peuple juif, qu'on appelle ça en français, plus qu'égocentrisme. Une espèce de plus que chauvinisme. Hein? Pardon? Oui, mais vous avez compris l'idée. C'est-à-dire, une tentation chauviniste, si vous voulez, propre à tout homme, mais qui aurait...
Judéocentrisme,
mais qui aurait traversé toute l'histoire de la culture juive, de voir le monde avec pour centre Israël. La camarade dit très sérieusement, c'est le centre du monde. C'est, comment dire, le nombril de la Terre. Vous aurez une des explications du Zohar à ce sujet. Il s'est là compris. C'est là que la prière monte. C'est par là que la prière monte. Mais réfléchissons bien que tous les hommes de la Terre, quels qu'ils soient, lorsqu'ils prient, ce Dieu dont parle la Bible, prie le Dieu d'Israël, et d'une certaine manière, non imagé, leur prière est envoyée par Télex à Jérusalem, par Télex spirituel, si j'ose dire, à Jérusalem, et ça passe par là-bas, puisque l'intention de la prière, c'est de prier le Dieu d'Israël. Alors le Dieu d'Israël se révèle et reçoit la prière à Jérusalem. Bien entendu, il est le Dieu universel, il est l'endroit universel du monde, mais la communication historique, concrète, réelle, existentielle, où s'est-elle faite et où se fait-elle à Jérusalem. Or, le Zohar explique ça de manière extraordinairement précise, en disant, imaginons le monde à l'intérieur de Dieu, comme un enfant dans le sein de sa mère. Et ce mot de Makom serait interprété que c'est Dieu qui est l'endroit du monde, et non pas le monde qui serait l'endroit de Dieu. Un Dieu dont le monde serait l'endroit. Un Dieu qui habiterait dans le monde, d'une certaine manière, comment dire, le monde étant l'espace de Dieu, c'est ça l'idole. Une des forces du monde, une des forces dans le monde, située dans son endroit d'être, le monde, dans l'espace du monde, une des forces la plus divine soit-elle, mais c'est ça l'idole, condamnée par la Bible. Une force de la réalité du monde, érigée en divinité. Mais la Bible inverse, si vous cette relation, c'est Dieu qui est l'endroit du monde. Alors, il pourrait être appelé Makom, l'endroit. Vous trouvez tout ça dans les références qu'on nous a distribuées. Alors, les gens expliquent ça. Imaginons le monde en Dieu, au sein de Dieu, le faisant être à la manière dont une mère fait être l'enfant qu'elle porte dans son sein. Et par quoi l'enfant se nourrit? Bien, à travers un cordon ombilical qui relie son nombril à la matrice. Et par conséquent, la nourriture vient par le nombril. Mais où est ce nombril? Eh bien, il est à Jérusalem. Donc le nombril, donc Jérusalem, c'est le nombril du monde. Je pense que c'est clair à comprendre. Bien, étant donné que la prière passe par là, alors la bénédiction vient de là. Et vous rappelez de tous ces versets. Et seront bénies en toi toutes les familles de la terre. Tout se passe, c'est plus qu'une image. Tout se passe comme si la prière du monde passe par cet endroit et la bénédiction pour le monde vient à cet endroit. Alors c'est ça le nombril. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas, vous voyez, de centrisme, il s'agit de l'endroit par où le monde reçoit la bénédiction, et toutes sortes de bénédictions, mais premièrement la nourriture, dit le Zohar. Enfin, la première bénédiction, c'est de ce dont on se nourrit, comme nous avons vu avant-hier. Vous vous rappelez de quoi te nourris-tu? Simplement de pain ou aussi de halom, ou aussi de rêve. Et d'autre part, on ne peut pas ne pas remarquer que, je vais donner un petit énigme à déchiffrer en exercice, si vous voulez. Si un jour vous prenez une planisphère et vous cherchez quel est l'endroit exact qui est à l'antipode de Jérusalem sur la planète, vous aurez une petite surprise. Mais je vous laisse la surprise à découvrir. Cherchez sur le planète. Comme ça vous mènera faire une nuit de là, vous allez chercher où sur la planète il y a Jérusalem. Et alors, on s'aperçoit que c'est effectivement un endroit qui est au confluent des trois grands continents. C'est le centre de l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et du côté de l'Asie. Et vous savez qu'il y a eu deux rivalités à ce centre-là. Un du côté de l'Europe, c'était la Grèce, et un du côté de l'Afrique, c'était l'Égypte. Enfin, pourquoi je dis c'était? C'est encore. Il y a dans cet endroit une prétention à être le centre, parce que c'est le centre. Et c'est le centre du monde habité, d'une certaine manière. Et dans ce petit coin qu'on appelle le Moyen-Orient en français, et dans ce petit coin-là, eh bien, il y a eu émergence de l'identité égyptienne, émergence de l'identité grecque, et émergence de l'identité hébraïque. Mais finalement, en tout cas d'après le récit biblique, que les Grecs ont fini par adopter à travers la religion chrétienne, et que les Égyptiens ont fini par adopter à travers la religion musulmane, il est clair que le centre, selon Dieu, c'est ni Athènes, ni Alexandrie, c'est Jérusalem. Par conséquent, c'est pas nous qui disons cela, c'est la Bible. Et l'histoire montre bien qu'il en est ainsi. Lorsque les musulmans prient le Dieu d'Abraham, Mais Dieu ne s'est jamais révélé à Abraham à la Mecque. Il s'est révélé à Abraham en terre d'Israël. Et lorsque le chrétien prie, eh bien, il prie le Dieu d'Abraham. Et, mais Abraham, Dieu ne s'est jamais révélé à Abraham, ni à Rome, ni à Athènes, ni à Moscou, ni ailleurs. Il s'est révélé là-bas.
Excusez-moi, mais alors la fraternité d'Abraham, qu'est-ce que cet essai de récupération par les amitiés dites judéo-chrétiennes et islamiques de l'identité juive et... ça m'inquiète beaucoup, cette histoire de fraternité d'Abraham avec leadership chrétien, de musulmans et de juifs.
Oui, il y a un problème, indéniablement. Une fraternité réelle doit tenir compte de l'identité concrète de chacun. Il y a une tentative de récupération d'identité qui est la suite contemporaine de cette grande rivalité qui est Israël. Est-ce que c'est Ésaü et ce qu'il a fondé dans l'histoire, ou est-ce que c'est Jacob et ce qu'il a fondé dans l'histoire? C'est, je crois, une des péripéties de cette grande rivalité, de cette tentative de récupération. Je crois que le point le plus ambigu, c'est, et je pense que ce sera là, enfin, je ferai peut-être allusion lundi soir, le noyau dur de la négociation, ce sera Jérusalem. Parce que tant qu'on va dire, par façon de parler, Jérusalem, capitale et berceau des trois religions monothéistes, il y a une ambiguïté fondamentale. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, et c'est en Israël, à Jérusalem, qu'ont été fondés aussi le message chrétien et musulman par la suite. Pas par la même stratégie, d'ailleurs, plus directement le message chrétien, un peu indirectement le message musulman, mais il y a là certainement une ambiguïté. Ce sera le noyau dur. Il faut reconnaître l'identité de chacun concrètement et sans ambiguïté. En tout cas, vous ne tombez pas dans ce piège. Jérusalem n'a jamais été la capitale du christianisme ou de l'islam. Dans l'islam ou dans le christianisme, on est censé, on ne le fait pas vraiment comme ça, mais on est censé remercier les juifs d'avoir donné le message chrétien aux chrétiens, le message musulman aux musulmans, et que c'est parti de Jérusalem. Une petite anecdote, une petite pointe, si vous voulez, que j'ai peut-être signalé un jour. Vous savez que la prise de la Bastille est une date très importante de l'histoire juive. Pas seulement de l'histoire de France. C'est à partir du 14 juillet qu'elle était la date de 89. À partir du 14 juillet 89 qu'a commencé le grand mouvement de l'émancipation des Juifs, qui a remis en branle toute l'histoire juive contemporaine. Le 14 juillet est une date très importante de l'histoire juive. Est-ce que c'est une raison pour que nous réclamions l'internationalisation de la place de la Bastille? Vous avez considéré la place de la Bastille comme sous souveraineté israélienne. Vous comprenez? Or, c'est ce à quoi jouent les non-juifs en réclamant l'internationalisation de Jérusalem, parce que c'est de là-bas qu'est parti le cadeau que nous leur avons fait. Ah oui, ouais, à peu près comment ça se passe? Mais tu m'as fait un beau cadeau, j'aime Jérusalem, donc c'est à moi. Bon, bien, je referme la prière. Il y a là un piège. Et nous revenons à la notion de Makom. Et je crois que la question importante, et voilà dans notre programme pour un quart d'heure avant que nous réfléchissions ensemble à ce qui vient de se passer. Et la question importante, voilà, est en deux points. L'importance de ce mot Makom, qui est trois fois dans le verset, il se heurta à l'endroit et que se heurte, deuxième point, était la prière. Et que c'est là que Jacob a institué la prière du soir, et qu'est-ce que ça signifie dans ce grand parallèle qui est en train de nous être indiqué dans la marche des patriarches, le premier temple correspondant à l'histoire d'Abraham, le deuxième à l'histoire d'Isaac, le troisième à l'histoire de Jacob, parallèlement à ça, les trois grandes prières de la journée liturgique, le matin, la prière d'Abraham, l'après-midi, la prière d'Isaac, et le soir, la prière de Jacob. Je vous donne en indication furtive tout un programme de référence à étudier par vous-même. Simplement, je vous signalerai un des moyens, un mnémotechnique par lequel on a signalé ça, mais qui me semble assez intéressant, pas seulement du point de vue formel. Certains d'entre vous le connaissent certainement. Et c'est ceci, c'est que cela est indiqué par la deuxième lettre du nom de chacun des patriarches. Avoir le B. Ok, je vais dire le matin. Suivez ?
Esaü et Jacob. Evet. Oui.
Sur la deuxième lettre de, du nom de son ami, c'est pas plus proche. Mais surtout, c'est indiqué dans la Gemara par les verbes qui sont mis pour dire la prière. Trois verbes différents, dont le nôtre est Vaïfga, il se heurta, la prière par heurte. La prière qu'on est obligé de faire. La prière qui s'impose à soi, c'est celle de Jacob. Vous voyez, Jacob est en voyage. Et il se dit, je vais voyager, je vais rentrer dans l'exil. Dans un monde où il n'y a pas de prière. La nuit, on ne prie pas. Et il était une institution par Jacob. Et les plus avancés d'entre vous savent bien que dans la Gemara, il y a une discussion très importante. Est-ce que la prière du soir est facultative ou obligatoire? Et finalement, on a décidé qu'elle est obligatoire. Mais donc, elle aurait pu être facultative. Et qu'est-ce que ça signifie? Peut-être nous aurons le temps de... Si j'oublie d'en parler, rappelez-le-moi, c'est important. Peut-être je le dis tout de suite, pour ne pas mettre ça de vue. C'est-à-dire, l'identité d'Abraham est achevée, elle est acquise. Nous sommes héritiers d'Abraham complètement, irréversiblement. Irréversiblement, pourquoi? Parce que son cycle d'identité est complètement achevé. Et nous vivons l'histoire d'Israël comme descendant d'Abraham, mais pas comme Abraham vraiment. Abraham nous a déjà légué cet acquis. Nous sommes irréversiblement fils d'Abraham. De même Isaac, de notre temps seulement, pendant tout le temps de l'exil chez Ishmael, le cycle d'Isaac était encore en jeu. Mais il n'y a plus de cycle sfaradique, si vous voulez. Il n'y a plus de présence d'Israël chez Ishmael. C'est fini. Enfin, une petite communauté au Maroc, tant qu'il y a encore un roi. Enfin, je ne veux pas trop projeter l'avenir, mais ce que les textes disent, c'est que tant qu'il y aura une dynastie où la prière est dite au nom du Dieu d'Abraham, par le roi, ce qui est le cas encore au Maroc, la communauté juive peut se maintenir. Vous remarquez bien cela, que dans tous les régimes musulmans où le chef de l'État ne dit plus la prière au nom des croyants, il n'y a plus de communauté juive. Vous avez bien remarqué, je viens de lire hier dans le journal, que on a rendu aux juifs de Syrie les droits de citoyens. Bon, vous avez très bien compris, il n'y a plus de juifs en Syrie. Puisqu'ils sont syriens. Et alors, à la limite, on peut dire que le cycle d'Isaac chez Ishmael a pris fin. Alors nous pouvons nous réclamer du Dieu d'Isaac. Cette identité-là est déjà irréversible. Peut-être nous devons revenir sur cette trop petite chose à la fois, là. Mais sur ce point, pour certains d'entre vous, c'est sûrement obscur. Puis, mais le cycle de Jacob, nous sommes en train de le vivre. Par contre, quand dire la prière au nom du Dieu de Jacob, est-ce que nous avons déjà le droit? Vous voyez quelle est la question? Est-ce que c'est facultatif ou obligatoire? Si nous vivons le thème d'identité de Jacob dans l'histoire, en tant que fils de Jacob, mais n'ayant pas encore achevé de faire cette preuve que Jacob a à faire, est-ce que nous avons le droit de nous réclamer de Dieu comme Dieu de Jacob? Nous réclamer de Dieu comme Dieu d'Abraham, ça nous avons le droit, donc le devoir. Nous réclamer de Dieu comme le Dieu d'Isaac, nous avons le droit, donc le devoir. Le premier exil est achevé, nous sommes sortis d'Égypte. Nous sommes fils d'Abraham. Le deuxième exil est achevé. Nous sommes sortis de Babel avec Ezra et Néhémie. Donc nous sommes fils d'Isaac. Vous voyez le parallèle? Mais nous sommes encore en train, pour nous, Israéliens, c'est fini. Enfin, à l'échelle du peuple, tout en, du peuple juif en entier, nous sommes encore en train de vivre l'empoignade Jacob-Ésaü, de vivre le thème d'identité Jacob-Ésaü. Est-ce que nous sommes ce Jacob déjà nommé Israël? Remarquez, c'est important de voir que le Goïm hésite à nous nommer Israël. Ne veulent pas encore. Et lorsqu'ils disent ce nom Israël, ils s'ingénient à lui donner une connotation qui n'est pas la sienne. Israël, c'est-à-dire impérialiste, Israël, c'est-à-dire colonialiste, Israël, c'est-à-dire des nazis qui sont chez les Arabes, et, enfin, certains ajoutent des achetés nazis, qui sont chez les Arabes. Mais, vous voyez, toute une série de connotations et qui consistent à ne pas reconnaître que c'est le peuple juif qui est d'Israël. Mais d'une certaine manière, encore la grande point d'interrogation. Est-ce que Jacob a déjà reçu le nom d'Israël? Nous sommes en train de vivre cette histoire. Alors est-ce que nous pouvons prendre le droit d'invoquer le Dieu de Jacob? Il faut avoir fini une preuve pour en avoir le test. Je voudrais donner l'analogie de vocabulaire. Vous allez voir tout de suite dans Le verté, prenez le verté de ceux qui ont le fromage complet. Au verset 13. Juste le verset qui suit les références que vous donnez. L'Igne et Hachem, Issa, Vala, Vayoma. Dieu se révèle à Jacob dans cette scène du rêve. On sait déjà que c'est pas un rêve, mais c'est plus qu'un rêve. C'est un vrai rêve. Vous vous rappelez d'un ami. Et il dit, Ami Hachem, Eloke Abraham, Avicha, Eloke Yitzhak. Je suis Hachem, Dieu d'Abraham, ton père et Dieu d'Isaac. Quelle est la question immédiate du commentaire? Comment c'est Isaac son père? Et tu dis pas son père. Et Abraham n'est que son grand-père et tu dis son père. Abraham, ton père et Isaac. Il y a plusieurs réponses, mais un verset très important, ce n'est pas notre objet. Premièrement, première référence, que, et ça je vous l'attendrai dans vos récits, c'est pas plus grand, je sais plus la réelle, mais dans les références que vous avez distribuées, c'est il y a 18 bénédictions dans la prière, sur les brachot, sur les esther brachot, 18 qui sont 19, mais on pourrait douter qu'elles devaient être 17. Parce qu'il y a 18 fois qui sont 19, mais peut-être qu'elles sont 17. 18 fois quoi? L'expression Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le Pentateuque. Vous voyez ça? Pourquoi il y a 18 bénédictions? Parce qu'on s'adresse au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, il y a 18 fois cette mention dans le texte du livre. 18 qui sont 19, peut-être qu'elles ne sont que 17. Voilà comment on va le discuter. Ce qui est en question, c'est ce verset-là. Parce que Dieu dit à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham, ton père et d'Isaac, s'adressant à Jacob. Alors peut-être c'est ça la 19e référence. Vous voyez, je schématise beaucoup, mais vous voyez comment ça se relie ici. Dieu se révèle déjà à Jacob comme Dieu d'Abraham et d'Isaac. Mais il peut dire Abraham ton père parce que le fils d'Abraham est clos. Abraham est déjà mort. Il a achevé la preuve qu'il avait à faire. Alors on peut invoquer le Dieu d'Abraham. Mais Isaac est encore vivant. Alors comment se fait-il que Dieu, c'est un cas particulier ici. Comment se fait-il que Dieu se révèle à Jacob alors qu'Isaac est encore vivant, d'une part? Si Isaac est vivant, c'est à Isaac qu'il faut se révéler. Pardon? Très bien, c'est juste, c'est la réponse de Rachid. C'est juste. Rachid donne trois réponses. Mais une de celles-là, c'est parce qu'il était aveugle et donc considéré comme mort. Ne pas identifier à l'échelle de la vie individuelle. Mais il y a un principe talmudique qui est que celui qui est aveugle est considéré comme mort, mais pour une raison qui va certainement vous étonner. Ne dites pas aux aveugles qu'ils sont considérés comme morts. Parce que je veux savoir quel mot on emploie en disant quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais parce qu'on considère que celui qui n'a pas les hétérara, pas les hétérara, comment dire ça en français, vous savez ce que c'est. Comment dire. Le mauvais penchant. Disons l'esprit de concupiscence. Non, plus que ça. La tentation, alors là, je suis passif, on me tente. C'est pas ça. C'est moi qui ai envie. Comment dit-on ça? Bon. Alors, on considère que ça vient par les yeux. Que les yézara rentrent par les yeux. La formule dit ceci, l'œil voit et le cœur désire. Alors, celui qui ne voit pas, n'a pas un yétérara comme les autres. Je pense que c'est clair, vous avez compris dans quel sens. Et celui qui n'a pas yétérara est comme s'il était mort, donc. C'est enseigné. Donc c'est une grande consolation pour les aveugles. Si on peut consoler un aveugle. Enfin, on les considère comme n'ayant pas les yétérara. Quoi, un véritable aveugle est en général un homme bon de façon exceptionnelle. Les remarquer ça. Et les grands poètes étaient aveugles. C'est pas simplement la légende, d'ailleurs, c'est pas une légende. Homère était aveugle. Mais le premier grand poète de la Bible, qui était Lémère. Lémère était aveugle. Et puis, je me souviens, en tout cas, dans la civilisation où je suis né, là, une civilisation traditionnelle d'Afrique du Nord, les grands païtamines, les grands musiciens, étaient toujours aveugles. Pas forcément, mais enfin, les grands étaient aveugles. Sortaient de cette manière d'être. Une espèce d'identité qui est en dehors de l'éternité. Bon, c'est une parenthèse. Pourquoi je parlais de ça? Oui, c'est la référence de la révélation.